On ne peut pas ne pas prendre en considération ce qui se passe aujourd'hui dans les pays islamiques où les populations se révoltent et de façon tout à fait inattendue, on voit comme ça le monde arabe en train de bouillonner. C'est clair que ça a à voir avec la Géoula. C'est marqué dans le Pirkei Rabbi Eliezer, le plus vieux des Midrashim, lorsqu'on parle d'Avraham Avinu dans Brit Ben Abtarim, l'alliance des morceaux littéralement, d'accord, Dieu a parlé à Avraham Avinu, il a promis la terre d'Israël, il a promis que sa descendance serait le peuple élu. Et à un moment, il voit, il a du noir, une obscurité qui tombe sur lui. Et il a très très peur. Chazal, dans ce Midrash, le Pirkei Rabbi Eliezer, le plus vieux de tous les Midrashim que nous avons, il date d'il y a environ 2000 ans, le plus vieux de tous les Midrashim, dit que chacun des mots de ce verset parle d'une des royautés à laquelle le peuple d'Israël sera confronté durant l'exil. Et à propos du mot Alav, Alav qui signifie sur lui, l'obscurité tombe sur lui, il dit c'est Ishmaël. Car sur lui, sur Ishmaël, le Mashiach vient. Je viens de poser la question maintenant à un des grands des sagesse, il y a une heure, voire un des cinq ou six plus grands tzadikim, Tamir Chachamim, du peuple d'Israël, je lui demandais c'est quoi le sens. Il m'a dit, quand eux tombent, Mashiach vient. Donc, est-ce que nous sommes en train de vivre maintenant les débuts de la fin de Ishmaël? Je l'ignore, mais en tout cas, quelque chose est en train de bouger, c'est clair. Nous, en tant que peuple d'Israël, et spécialement mesdames, devons voir comment nous pouvons activer cette Géoula, faire qu'elle vienne Barachamim, qu'elle vienne dans la miséricorde, sans effusion de sang, sans peine, sans peur, mais que ce soit une belle arrivée de Mashiach dans une joie énorme. Il est clair que les femmes, comme à la sortie d'Égypte, il est marqué, Bezrut Nashim Tzadkaniot, Yatzanu Mitzrayim, par le mérite des femmes justes, Tzadkaniot, nous sommes sortis d'Égypte, il est marqué que les mêmes type de Géoula qui est en sortie d'Égypte, il y aura aussi à la fin des temps, comme il est marqué dans Micha, qui met cette trame à cette trame à une flotte. Comme à l'époque de la sortie d'Égypte, il nous montrera des miracles. Donc le même prototype de ce Géoula qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, il y aura aussi à la fin des temps, Baruch Hashem, cette année, j'espère. Alors comment faire pour activer la Géoula? La Géoula, c'est en fait une guerre entre le bien et le mal. Et le bien doit gagner, et le mal, bien sûr, ne se laisse pas faire. Donc nous devons, nous, étant les véhicules du bien, devons faire en sorte que le bien se renforce. Comment faire cela? C'est marqué, il y a un verset, c'est dans Malachi, c'est marqué, Vaya bet Yaakov esh, la maison de Jacob sera du feu. Ou bet Yosef le'ahava, et la maison de Yosef, c'est le fils de Jacob, donc la descendance de Jacob sera une flamme. Ou bet Esav le'kash, et la maison de Esav de la paille. En fait, il y a deux forces dans le monde. Le véhicule du bien, c'est Yaakov Avinu. Le véhicule du mal, c'est Esav. Lorsque Yaakov se bat contre l'ange du mal, Chazal nous ont dévoilé, c'est qui l'ange du mal? C'est Sarosh el Esav, c'est le ministre, l'ange de Esav. Esav, c'est les forces du mal. Je ne parle pas, bien sûr, forcément au niveau des individus. Il y a des ressortissants du monde Esav, de l'Occident, qui sont des gens très très bien. Je parle en tant qu'entité spirituelle qui, bien sûr, se pose sur des véhicules terrestres. Il y a aussi des gens dans Esav qui sont des grands ennemis de Dieu. Mais on ne peut pas juger que dire tous les ressortissants d'Esav sont forcément des ennemis de Dieu. Non. Mais l'ange du mal, certainement, s'appelle Esav. À la fin des temps, la maison de Jacob sera du feu, celle de Yosef une flamme, et Esav la paille. Ça veut dire que le feu de la vérité va dévorer la paille, le mensonge, tout ce que propose Esav. Pour bien comprendre comment nous devons, nous, ressortissants de Yaakov, renforcer Yaakov, il faut bien analyser l'identité Esav et l'identité Yaakov. Lorsque les deux vont naître, ce sont deux frères jumeaux, Esav et le frère aîné, il est marqué que Yaakov était Ishtam Yoshev Oalim. Un homme tam. Tam signifie en hébreu moderne naïf, mais c'est une mauvaise traduction. Tam signifie, comme dit le Targum, la traduction en araméen écrite il y a 2000 ans, Tam signifie parfait. Parfait. Shelim en araméen. Shelim signifie shalem, parfait, intègre. Parfait dans son intégrité. Yoshev Oalim. Ishtam Yoshev Oalim qui demeure dans les tentes. On va analyser un peu plus tard, c'est quoi se demeurer dans les tentes. Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Un homme qui sait chasser, attraper les gens font de la vente, d'accord, parlant bien, Ish Sadé, un homme extérieur dans les champs, un homme des champs. Bon, extérieur, intérieur, c'est insuffisant. Qui est Esav? Lorsque la Torah relate la naissance des deux enfants, Yaakov et Esav, va raconter. Un fait comme ci, un fait comme ça, mais jamais on va entendre l'un des deux parler. La première fois on va entendre un des deux parler, c'est dans l'épisode suivant. Esav revient des champs, Jacob a cuisiné un plat de lentilles, Esav a faim, il dit à Jacob, « Aliteni na mina adom adom azé kaif anochi. » Aliteni signifie quelque part « gave-moi ». Gave-moi, s'il te plaît, il parle pour l'immense, c'est un occidental, il y a du savoir-vivre, de ce rouge, rouge, allusion de pas de lentilles, de variété rouge, que cuisinait Yaakov, car je suis fatigué. En bon français actuel, on dirait, passe-moi ce truc-là, de ce truc rouge, là, je suis crevé. Nous dit le texte immédiatement après la fin de la citation, fermez les guillemets, Alken, Kara, Shemo, Edom. C'est pour cela qu'on l'a appelé Edom. Comme dit un autre verset de la Torah, Esav ou Edom. Esav, c'est Edom. Il a deux noms, Esav, Edom, comme Yaakov a le surnom aussi Israël, Esav a le surnom Edom. C'est quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'on appelle toute la civilisation occidentale Edom? Parce qu'il y a 4000 ans, leur arrière-grand-père fait un petit lapsus, passe-moi de ce truc rouge, on t'appelle le rouge. Demain, votre mari rentre à la maison, chérie, vous avez préparé hein, des petits pois. Chérie, ah, passe-moi ce truc vert, ça a l'air bon. T'as dit truc vert? Ce sont des petits pois. T'as dit truc vert? Eh bien, dorénavant, on change de nom. Tu parles, monsieur, la verdure. La verdure, et toi, toute ta descendance. Dans la Torah de Dieu, un truc pareil, c'est une blague. C'est pas une blague. En fait, c'est extrêmement profond. Comme j'ai dit auparavant, la première fois où la Torah nous relate le discours d'un des deux protagonistes, Esav et Yaakov, c'est là. Jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais entendu. La première fois où il parle, c'est ici. Or, une personne parle toujours pour dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut. Uniquement pour cela, on ne parle jamais pour autre chose. Et Esav, quand il parle, il va exprimer sa volonté. Et vu que c'est la première fois qu'il parle, c'est en fait la volonté première, la pensée première du Père de l'Occident. Donc en fait, dans ce verset, se trouvent en fait toutes les facettes les plus caractéristiques du monde occidental. Je n'aurai pas le temps, dans le cadre de ce cours-là, d'expliquer chacune de ces facettes. Il y a un cours qui s'appelle Le Look, je vous recommande de le voir sur le site internet. Mais je vais néanmoins prendre ici le mot le plus important de toutes. Cette phrase, Edom, il est marqué deux fois dans le verset. Aliteni min ha'adom ha'adom azé. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge, rouge car je suis fatigué. Donc le fait que ce mot soit accentué est donc certainement la facette la plus importante du monde occidental, au nom duquel on a appelé Esav Edom. Rouge. Au lieu d'appeler le plat de lentilles par son nom lentille, Esav l'appelle rouge. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par cela? Tout simplement la chose suivante. Le nom évoque toujours, du moins dans la Torah, même dans notre monde à nous, mais encore plus dans la Torah, le nom évoque toujours la finalité. Je demande qu'est-ce que c'est? On me dit un livre. Ok, j'ai compris. Chaque fois, qu'est-ce que c'est? Un micro. Le mot évoque toujours le à quoi ça sert. Un micro à capter le son. Un livre à mettre un texte dessus que les gens pourront lire, etc. Quand Esav voit l'aliment, la Torah nous dit, ne va pas l'appeler d'après son nom qui évoque la finalité, il va l'appeler d'après son look, d'après son aspect, d'après ce que je vois. C'est-à-dire que le monde occidental va mettre un accent très très grand sur ce que voient nos yeux. Bien sûr, au dépend de l'intériorité. Et on parle ici de la chose la plus superficielle, la couleur. C'est donc le superficiel, le plus superficiel possible qu'on puisse avoir. Et ça est un homme de l'extérieur superficiel. Il regarde la couleur. Donc en Occident, on mettra un accent très grand sur l'aspect extérieur. Lorsque Esav rencontre Yaakov, on parle 30 ans plus tard, plus, ils sont nés... Bon, quand Esav avait 84 ans, Yaakov revient après 20 ans d'exil en terre de Babylonie, chez Laban. Yaakov est avec sa famille, ses femmes, ses enfants, ses troupeaux. Esav arrive en face de lui. C'est marqué dans le texte, Vaïssa, Esav et Enav. Esav a levé ses yeux, Vaïar, et il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Hanashim, les femmes. Parce que dans le look, qu'est-ce qui est le plus look des looks? Bon, c'est beau de voir un livre, c'est beau de voir les Alpes, c'est bien beau de voir des lapins, d'aller aux eaux, d'accord. Mais la femme, C'est le look. Aujourd'hui, Internet, aujourd'hui, les affiches, aujourd'hui, les pubs, aujourd'hui, la mode. Le plaisir des yeux le plus grand, c'est la femme. La femme. Et ça, regarde la femme. Il lève les yeux et regarde. Tu as Yacoub en face de toi. Tu as Yosef al-Sadiq. Tu as les 12 tribus. Laisse tomber. La femme. C'est typiquement Essavite. Qui Yaakov, Ishtan Yoshev Oalim, un homme intègre, parfait, qui demeure dans les tentes. Dans les tentes, deux tentes. Pourquoi deux tentes? Nous sommes en train de dire maintenant, ceux qui suivent la paracha chaque semaine, on a des parachotes un peu, on va dire, moins passionnantes que ce qu'on a l'habitude de lire dans les livres de Bereshit ou dans le Devarim. On nous parle très longuement de la construction du sanctuaire dans le désert. Et on a quatre parachotes ainsi. Trouma, Tetzavé, Vaïkhel, Perkoudi, c'est tout ça. On nous ressasse de nouveau la longueur des planches, la largeur du sanctuaire, l'étoile, comment elles étaient faites, les pieux en argent, en cuivre, en or, des détails, 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 détails. Bon, alors c'est marqué que ce sanctuaire est extrêmement important. Qui l'a construit? Betzalel, principalement. Comme dit la Torah, Dieu l'a rempli d'une sagesse, il savait associer les lettres avec lesquelles le monde a été créé. C'est-à-dire que le monde a été créé au moyen de forces divines, il connaissait la nature de ces forces divines, et avec la connaissance des forces divines, il a créé le sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est un peu comme une création du monde en microcosme. Dieu voulait avoir un sanctuaire, une demeure sur terre, de laquelle il dirigerait le monde entier. Il le dirigeait depuis le ciel, par toute la mécanique métaphysique de direction du monde. Dieu a voulu que ça se passe par l'intérieur du peuple d'Israël, en sortant du sanctuaire. Le sanctuaire, en fait, c'est très important de connaître toutes les mesures, etc. Mais nous qui ne connaissons pas les grands secrets de la mécanique métaphysique et secrets de la Torah, bon, alors on lit ça un peu comme ça, rapidement. Mais il est clair que même à notre niveau, il y a sûrement un enseignement à prendre de cela. Le sanctuaire était peut-être le plus beau bâtiment qu'ait connu le monde, entièrement en or. Ça veut dire, il y avait des planches de bois, mais les planches étaient toutes recouvertes de plaques d'or. Pas aujourd'hui en plaqué or qui fait, c'est une pellicule de 0,1 mm, d'accord, c'est rien du tout. Des vraies plaques d'or massifs qui sont collées sur des planches de bois. Chaque planche faisait 5 mètres de haut, le sanctuaire faisait 15 mètres de long, sur 5 mètres de large. Donc un bâtiment entier comme ça, une sorte de U, fait avec des planches recouvertes d'or totalement. D'où vient cet or-là? Chacun des juifs, il entend Moshe dit, qui veut maintenant donner de son or pour le sanctuaire? Le sanctuaire de Dieu, l'endroit où Dieu maintenant va diriger le monde entier, génial, ma bague de fiançailles, allez, les boucles d'oreilles de ma grand-mère, allez, le bracelet que j'ai reçu de mon oncle, allez, ça c'est l'anniversaire, on donne chacun, les femmes sont montées sur les hommes pour plus rapidement aller donner leurs bijoux. Quelle fierté pour chaque femme, elle voit maintenant ici dans le troisième pylône à gauche, là-bas il y a ma bague, elle est là-bas, c'est partie du temple d'Hachem, c'est un grand kavod. Oui, mais, il y a un mais, c'est que ces planches recouvertes d'or massif ont été recouvertes elles aussi d'une tente, une belle tente. C'est marqué Maaseh Choshev, fait avec beaucoup de Choshev de pensée. C'est une sorte de tissage extrêmement spécial. On voyait d'un côté une forme, de l'autre côté une autre forme. Très dur à faire. Et c'était des fils, c'était un mélange de 24 fils, 4 fois 6 fils, chaque fil, pardon, 28 fils. Chaque fil était x 7, avec 4 produits. De la laine rouge, la laine bleue, etc. 4 produits, chacun 7 fils, on mettait ensemble, ça faisait des fils de 28 fils. Et comme ça, on met la tente, très très belle, on recouvre le bâtiment, mais pas jusqu'en bas, parce que si on veut jusqu'en bas, on ne verra plus rien de l'or. Alors, la tenture s'arrêtait à 2 coudées du bas. Une coudée, c'est 50 cm, un peu moins, 49 cm. La première coudée, c'était des socles en argent dans lesquels les planches recouvertes d'or massif étaient plantées. Donc on avait une à main, une coudée d'argent, et après on voyait encore une coudée d'or, et après commençait la tenture. Donc on voyait très beau, on voyait l'argent, on voyait l'or et la tenture. Ah, quel beau sanctuaire. Mais, il y a un mais, il y a un mais. On rajoutait encore une tenture. Cette fois, pas Maaseh Choshev, pas un mélange de quatre fils, tout simplement de la laine. Pas une laine de cachemire, pas la laine plus simple, même pas de brebis, une laine de chèvre. Bon, on l'avait bien pour qu'elle ne soit pas mauvais. Mais bon, la laine de chèvre, la plus simple qu'il puisse y avoir, on recouvrait comme ça aussi la tenture d'une autre tenture de laine de chèvre. Vous me direz, alors certainement ça s'arrêter plus haut, pour qu'on puisse voir au moins l'argent, l'or et la belle tenture. Nenni, la tenture de laine de chèvre arrivait jusqu'à une coudée du sol. Donc si on voyait depuis l'extérieur, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait le socle d'argent, Et après, directement, on voyait la tenture de chèvre. La belle tenture des 28 fils, rien du tout. L'or, rien du tout. Et la bague de ma grand-mère, eh ben on la voit pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Les socs d'argent, on croit que c'est beau. Aujourd'hui, il y a des produits pour faire briller l'argent, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc le premier jour, c'est joli. Après une semaine, c'est de l'oxydé. Après un mois, c'est tout noir. Donc on voyait du noir entouré, recouvert au-dessus de la laine de chèvre. C'est pas dommage. Et la bague de ma grand-mère, les boucles d'oreilles d'or, ben, dedans, personne ne peut voir. Ouais. Aaron, Moshe, ils rentrent de temps en temps là-bas, eux peuvent voir. Mais en fait, c'est faux, ils ne voyaient pas grand-chose, parce que dans le sanctuaire, il y avait deux parties. Il y avait le saint et le saint des saints. Le saint, il y avait un peu de lumière qui rentrait à l'extérieur, puis il y avait aussi le candélabre. Le candélabre à sept branches, donc il y faisait un peu de lumière. Mais le saint des saints. Le saint des saints, il y avait un rideau. Et quand tu rentres derrière le rideau, qu'est-ce que tu vois? Rien. Tu as en fait trois parois d'or massif. Tu as Aaron HaKodesh, la boîte dans laquelle il y avait l'arche sainte, d'accord, dans laquelle il y avait les tables de la loi, avec les chérubins, tout ça en or massif. Tu as derrière toi le rideau qui est fait en Maserochev, le mélange des 28 fils, très très beau, mais tu rentres dans le Saint des Saints, c'est tout noir. Je comprends pas. Le plus haut bâtiment du monde. Le Saint des Saints achève une petite lumière quand même, pour qu'on puisse au moins profiter. Ou alors. C'est bizarre ça. C'est ça, mesdames, c'est ça la Kedusha, c'est ça la sainteté. Yaakov Ishtam, un homme parfait, Yoshev Olim qui demeure dans les tentes, le saint et le saint des saints. Il y avait en fait trois parties. On a le saint des saints, le saint et la partie extérieure, la Hazara, où il y avait aussi l'autel de cuivre. En fait, dans ces parties, il y aura des travaux différents. À l'extérieur, il y aura les sacrifices. Le sacrifice, c'est une chose qui est manuelle. Je dirais même qu'il y aura trois types de sacrifices. Il y aura sacrifice d'animaux, sacrifice de blé, les menachot, et sacrifice libation d'eau et de vin. À mon avis, ça correspond aux trois piliers du service divin. C'est marqué que le monde tient sur trois choses. La Torah, la voda, la Torah, l'étude de Torah, c'est le vin et l'eau, parce que la Torah est comparée au vin et à l'eau. Et ce que la Torah, c'est le vin, la Torah normale, c'est de l'eau. À la Torah, va avoda. Avoda, c'est le service divin, la mitzvot. Ça, c'est les corbanot des sacrifices. Et Al-Ha Gnout Chassadim, l'entraide. L'argent, le blé, d'accord, les menachot, le blé, service de blé. Ça, quand tu fais une action physique, c'est très bien, c'est des mitzvot, mais c'est une chose qui se voit. Ça reste normal. Quand tu rentres maintenant dans le saint, on ne peut plus le montrer. C'est de l'or massif, le saint, mais déjà caché. À part un peu dedans, le candélabre, on voit un peu de lumière, mais c'est déjà beaucoup plus caché. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a aussi trois objets. On avait le candélabre, on avait l'autel d'encens, on avait la table des pains. Ceci correspond à des services de Dieu, mais qui sont faits, à mon avis, déjà beaucoup plus haut dans la pensée. Candélabre, c'est la Torah, mais pas au niveau où on me voit en train d'étudier, c'est la pensée de la Torah. Il y a l'action de parler, ça correspond à l'extérieur, l'action. Dehors, c'est le monde de l'action. Dans le sein, c'est le monde de la pensée. Donc, il y a le candélabre, c'est la pensée de Torah, on ne voit rien. Quelqu'un qui pense Torah, tu ne vois rien. C'est une chose qui s'est cachée. L'autel d'encens correspond au service de Dieu, la prière. Quelqu'un, il se balance, tu ne sais pas ce qu'il pense. Il peut même prier sans se balancer. Il y a juste, il chuchote, il ne s'entend même pas des fois à l'oreille. C'est des choses qui sont intérieures. La table des pains, c'est de nouveau l'argent, le pain, mais il y a l'argent aussi maintenant. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes. C'est le bitachon, la relation argent que tu as avec Dieu. Tu as une foi en Dieu. La foi en Dieu, au niveau de tout ce qui concerne l'argent. Les gens qui sont inquiets. Tu as une foi totale en Dieu. C'est une chose qui est complètement intérieure. Ça, mesdames, c'est le saint. Mais le plus intérieur, c'est le saint des saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le saint des saints? L'arche sainte, avec dessus les chérubins. Le saint des saints, après qu'on a vu le monde de l'action, la pensée, qu'est-ce qui est encore de plus intérieur? Le cœur. L'amour de Dieu. Les chérubins, d'après Chazal, ils étaient un mâle, un femelle, se regardaient avec amour, et d'entre les deux, du regard des deux, sortait la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la source de tous les flux qu'il peut y avoir sur terre. Le monde est créé par la parole de Dieu. En hébreu, on dit un objet, on l'appelle davar, ou chefetz. Davar, c'est un synonyme du mot aussi parole, parce que parole Et objet, c'est la même chose. Parce que toute la réalité que nous avons ici, ce sont des matérialisations de la volonté de Dieu. Quelqu'un, quand il parle, il réalise quelque part, il exprime sa volonté. L'expression de la volonté de Dieu, c'est le monde a été créé. Dieu voulait que le monde soit, Dieu a pensé le monde, il a voulu. Le passage de la volonté, qui c'est une chose qui est intérieure, de la pensée qui est intérieure à l'extérieur, cette réalisation s'appelle parole. Pas comme les enfants croient qu'il y avait une grande barbe, et tout à coup dans l'espace intersidéral, la voix de Dieu est sortie, Yehi Or, qui est lumière. Yehi Or signifie quand Dieu dit Yehi Or, Vayi Or, qui est lumière, et lui lumière, c'est la parole elle-même, elle est création. Autre mot pour dire en hébreu objet, chefetz. Chefetz, c'est objet, mais signifie aussi en hébreu quoi? Désir. Parce que chaque objet qui est sur terre est un désir de Dieu, est une réalisation du désir de Dieu. Donc en fait, la parole de Dieu qui sortait dans les deux chérubins, c'est là la source de tous les flux possibles et imaginables qu'il y a sur terre, la création elle-même. De quoi ça provenait? D'une chose bien plus profonde, et que l'action, et que la pensée, le cœur, ma relation avec Hachem, une histoire d'amour. On est bientôt à Purim. Haman, la Gemara dit qu'il n'y avait personne qui parlait aussi bien Lashon Hara que Haman. Il allait voir le roi Assuréus, lui disait, ce peuple-là, ils ont des lois bizarres, ils n'ont aucun kavod pour le roi. Sa moustique tombe dans leur vin, ils prennent la moustique et le jettent et boivent le vin. Si sa majesté touche le vin avec son petit doigt, ils prennent le vin et jettent à la poubelle. Il y a une nesser. Ça a énervé le roi. Plus profondément, Chaza explique que Haman, il parlait la chanara à Dieu. Il a dit, Yesh Noam, Mefuzar, Mefora, il existe un peuple disséminé dans ton royaume. Yesh No Ilia, on peut lire aussi Yashnu, ils dorment des mitzvot. Dieu, ton peuple, ils font plus rien, plus de Torah, plus de mitzvot, ça sert à rien de les laisser, élimine-les. Et Dieu accepte, il voit Haman dans sa vue du monde mystique, il voit que Dieu accepte, c'est fini. Parce que si nous on dort, Dieu aussi dort. Sauf que Haman ne peut pas voir très loin. C'est Haman après tout. C'est vrai que, à ce que nos yeux voient, c'était mort. Mais c'est marqué dans Shirachirim, Ani Yeshena, je dors, comme ça dit la Shrina, la présence divine, Velibi Er, mais mon corps est réveillé. Haman peut voir qu'au niveau du regard qu'il voit, c'est-à-dire de quelque chose, il est ça, c'est un descendant de Esav, Haman, il voit ce qu'on voit. Le peuple dort, donc Dieu dort, terminé, il n'y a plus rien. Il ne peut pas voir le cœur, il ne peut pas aller dans le Saint des Saints, voir le cœur. Bien comme Israël soit loin de Torah, Dieu nous aime. Maintenant, il faut, bien sûr, il y a des décrets, il y a un danger, il y a Ishmael qui se réveille, c'est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être Ish, Yaakov, Ish Tam Yoshev Oalim, l'intériorité. On doit avoir une relation avec Dieu qui doit être intérieure, le Saint des Saints. Histoire d'amour. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, c'est le Saint des Saints. C'est quoi Shir HaShirim? Histoire d'amour. Avoir un contact riche. Passionné, sentimental avec Hachem. Comment on arrive à ça? L'amour de Dieu, c'est une chose qui est très très fine, c'est très dur. Chazal disent que les paroles de Torah et la relation avec Hachem, c'est comme des verres de cristal. Ça coûte très cher, ça se casse très vite. Le seul moyen d'y arriver, mesdames, plus on investit dans l'extérieur, moins on a de l'intérieur. Celui qui investit dans ce qu'il a d'extérieur, il se montre. Je parle bien sûr, premièrement, au niveau des habits tout bêtement, la tsniout. La France est quand même un des pays de la mode. La mode n'est pas londonienne, ni birminghamienne, ni berlinoise, elle est parisienne. Et c'est certain que nous sommes influencés par cela. Mais beaucoup plus que cela. Toute la façon d'être, toute ma relation avec Hachem. Je fais un acte maintenant. Je le fais machinalement ou je le fais maintenant avec amour de Dieu. C'est un travail. C'est un travail qui est très beau. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est très beau, c'est passionné. Personne ne veut d'un mari qui vient, qui dit, tiens, prends ton bouquet de fleurs. Il lui fait un discours, il lui fait un sourire, il le regarde avec un regard passionné, aimant. Ça change tout. Quand je fais une mitzvah, c'est comme si je donne un bouquet de fleurs à Hachem. Je peux le faire bêtement. Je peux le faire passionné, amoureux. Mais comment avoir une relation avec Hachem? Si on est extérieur, c'est mort. C'est mort. Le Saint des Saints, d'or massif, était tout noir. Notre relation avec Hachem, c'est une chose qui est complètement cachée. En tant que femme, les femmes, en tant que ça peut être un grand moteur de Ramisha, parce que la femme, de façon naturelle, est beaucoup plus intérieure. Il y a un verset qui dit « Kvod Hachem Aster Davar », le kavod de Hachem, Aster Davar, de cacher les choses. Le dvar, c'est la parole de Dieu, le cachet, le dvar, d'accord. Le dvar, ça signifie chose et parole. Le kavod d'Hachem, c'est caché. On a vu maintenant le kavod d'Hachem, où Dieu se dévoile, l'endroit où Dieu se dévoile, le Saint des Saints entre le regard des chérubins, tout noir. Il y a un autre verset qui ressemble beaucoup. Kvod, kol kvoda bat melech. Tout l'honneur, tout le kavod d'une fille de roi, pnima à l'intérieur. C'est qui la fille de roi? C'est la femme, c'est la shrina, la présence divine sur terre. Il y a dans la mystique juive, parle de kouchabrechou. C'est saint béni soit-il, en traduction française que j'aime pas trop. La partie masculine de Hachem. La shrina, présence divine, c'est la partie féminine. La shrina, c'est celle qui se dévoilait dans le sanctuaire. Elle est cachée. La femme est véhicule de la shrina beaucoup plus que l'homme. Si la femme se renforce à devenir un vrai véhicule de la shrina, dans une relation passionnée, aimante, tout dans l'intériorité, pas montré. Tu peux pas, même on sait très bien qu'on peut s'habiller de sa noix, pas de sa noix. Un regard, une façon de parler, un manque de distance par rapport au monde masculin, tout cela est contraire au Saint des Saints. On a un concurrent qui va aussi être en relation avec Hachem. C'est Ishmaël. Ishmaël, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Abraham, qu'Abraham a béni, qui a fait la Brit Mila, et qui donc a une relation Brit Mila. Brit, c'est fait alliance avec Dieu. En fait, il n'y a pas d'alliance. L'alliance qu'il a, elle est très petite, parce que nous, on a la vraie alliance. Néanmoins, il prétend l'avoir. Et la guerre, elle est là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? À part les chérubins, dans la boîte, dans l'Arche Sainte, il y avait l'Uchot HaBrit, les tables de la loi. Littéralement, les tables de l'alliance. La Brit. La grande bagarre qu'il y a aujourd'hui dans le monde, au niveau des mérites, entre Ishmaël et nous, et c'est vraiment la dernière bagarre avant que Mashiach vienne, est au niveau de la Brit. La Brit signifie la Brit Mila. À quel point, au niveau de la débauche sexuelle, le peuple d'Israël fait attention de rester saint. Et il est clair qu'un regard sur une femme, c'est une chose qui n'est pas sainte. Une femme sait qu'elle peut attirer les regards, et c'est qu'elle peut faire en sorte de ne pas attirer les regards, en tout cas beaucoup moins. En cela se trouve la grande guerre des mérites entre Ishmaël et nous. Chaque fois que Chassid Shalom, un juif ou une juive, s'investit exprès ou malgré lui dans le monde de l'impudeur, dans le monde de la débauche, mais débauche pas forcément l'internet grave, simplement qu'il y a un regard qui n'est pas pur, une parole qui n'est pas pure. Déjà, on investit, on donne la force à Ishmaël. Et la guerre, elle est là. Aujourd'hui, le monde d'Ishmaël est en train de se réveiller, on a besoin de beaucoup de mérite. Grâce aux femmes tzadkaniot qui nous ont sorti d'Égypte, je suis convaincu que grâce aux femmes, spécialement françaises, parce que la grande choix dans le monde, elle est en France. Et plus on vient de bas, plus notre chouva a de la valeur. Or, dans la France, vous baignez, hélas, dans le monde de Esav et d'Ishmaël. Aujourd'hui, on sait bien que la France, aujourd'hui, c'est les deux à la fois. S'il y a maintenant quelques juifs qui prennent sur elles de se renforcer dans la primiout, dans l'intériorité, dans la richesse du contact avec Dieu, au dépens de l'extériorité, immédiatement, elles deviennent des véhicules de la shrina. Et combien on a besoin de cela? Grâce à ces véhicules de la shrina, je suis convaincu que Dieu amènera la Géoula, puis Mère Vémanou très rapidement, Berachamé avec miséricorde. Amen. Merci.